Bienvenue sur le plateau d'Arrêt sur Image. Le 7 mars, date de l'enregistrement de cette émission, marque le début du 6e mois de l'opération militaire menée par Israël dans la bande de Gaza. Opération consécutive à l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas. Des dizaines de milliers de morts plus tard, comment l'État hébreu communique-t-il? Si dans les premières semaines, les images venues des Gazaouis étaient nombreuses, elles se raréfient, les journalistes ont été tués dans des bombardements ou ont dû fuir. Ces vidéos et photos venues des habitants de Gaza ont été peu à peu remplacées par d'autres, prises, elles, par des soldats israéliens eux-mêmes. Ils se filment au milieu des ruines, pillant des maisons détruites ou dansant dans des formats calibrés pour les réseaux sociaux. Que dit ce nouvel afflux d'images de l'armée israélienne, de son rapport à Gaza et aux Palestiniens? Israël a beau promettre des enquêtes, difficile de comprendre si ces soldats échappent à tout contrôle ou si au contraire ils répondent à une nouvelle stratégie de conquête par l'image. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui avec mes deux invités. À côté de moi, Sarah Guerra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédactrice en chef du journal en ligne Orient 21, qui suit au quotidien la situation à Gaza et qui a publié le 14 février dernier une longue enquête sur ces pratiques sous le titre « À Gaza, les soldats israéliens mettent en scène leurs crimes en vidéo ». On va y revenir évidemment longuement. En visio, Samuel Forêt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Israël, vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez pour Le Monde depuis Jérusalem. Vous aussi, vous avez enquêté sur ces vidéos qui s'échangent entre soldats et sont postées sur les réseaux sociaux. Deux enquêtes édifiantes. Avant d'y venir, je voudrais qu'on voit une photo qui a fait le tour du monde. C'est ce selfie pris par des soldates israéliennes devant les ruines de Gaza. Et la photo est signée d'un photographe de la société de presse, donc une agence de presse, Tsafrir Abayov. Donc on y voit cette dizaine de soldats qui se filment devant les ruines ou qui se prennent en photo, en tout cas avec un smartphone. Samuel Ferret, première question, est-ce que cette photo, elle a été vue, est-ce qu'elle a circulé en Israël?
Elle a circulé comme beaucoup de photos. Elle a circulé comme un ensemble de matériel, que ce soit photo, vidéo, qui se retrouve sur Instagram, sur TikTok, etc., et qui, comme vous l'avez dit justement, ont tendance un peu à remplacer tout ce qui a pu être présenté par les journalistes palestiniens aux premières semaines du conflit, et qui crée une sorte de... Il y a une sorte de discours, enfin, une sorte de... C'est un peu comme une sorte de média parallèle. Il y a ce qui est présenté par l'armée israélienne, qui est en général quelque chose d'assez prudent et soigné. On veut montrer une armée qui, par exemple, fait attention à préserver, à ne pas bombarder des victimes civiles. Et puis à côté, on voit... on voit toutes ces destructions, ces ruines, ce carnage dans la ville qui est présenté par les soldats sans filtre. Ça crée un sentiment, en fait, de comme s'il y avait une sorte de communication parallèle, presque artisanale, qui est faite par ces soldats et qui alimente des commentaires sur tout un réseau. Et ça s'inscrit aussi dans une sorte de confrontation qui était en fait assez ancienne entre Palestiniens et Israéliens sur les réseaux sociaux. Et il y a, je me souviens qu'en 2021, par exemple, j'étais déjà ici, en 2021, les tensions sont montées notamment avant le ramadan de l'époque, parce qu'il y avait les jeunes Israéliens, les jeunes Palestiniens se provoquaient via les réseaux sociaux.
Sarah Guerra, sur cette photo, on ne voit que des femmes, d'abord. Ce qui est l'un des arguments très souvent mis en avant par l'armée israélienne. On est une armée très féminisée. On est, bon, sur d'autres sujets, on est ouvert aussi aux soldats LGBTQI+, etc. Est-ce que ça aussi, c'est un élément important de cette photo? C'est-à-dire que c'est rare d'avoir autant de femmes sur un champ de bataille, d'abord. Et ensuite, elles ont l'air jeunes, parce que l'armée israélienne est aussi composée de soldats et de soldates plutôt jeunes dans la moyenne. Est-ce que ça aussi, ça dit quelque chose de ce qu'elles vivent dans cette guerre et de comment elles le voient?
Ou en tout cas de ce que l'armée a envie de communiquer Comme image, ça oui, certainement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le purple washing, donc en fait le fait de blanchir son image ou vouloir se donner une image positive en surfant sur les thématiques féministes, il y a eu des articles là-dessus, hein, notamment un article de l'AFP qui parlait du fait que dans l'armée israélienne, on a presque atteint une parité. Donc je ne sais pas si c'est vraiment la priorité ou si c'est vraiment une avancée pour les femmes d'atteindre la parité dans le fait de commettre des crimes de guerre. Justement, ça va aussi en parallèle avec aussi une volonté de pinkwashing, donc le fait de vouloir se blanchir ou se donner une image positive en surfant sur, justement, les questions LGBTQI+, notamment avec aussi une autre image qui avait beaucoup circulé il y a quelques mois d'un soldat israélien qui tenait un drapeau LGBT au milieu des ruines. Donc, effectivement, c'est un élément très important. Et puis, ce qui est frappant dans cette photo, c'est la coexistence de deux codes. C'est-à-dire que le selfie, c'est quand même quelque chose qui est très identifié réseaux sociaux. On se prend en selfie pour poster ça sur Instagram, etc. Donc, quelque chose d'assez léger. On est vraiment dans... les vacances, les moments de joie, de légèreté, etc. Et derrière, il y a un paysage de ruines. Et c'est pas un terrain de guerre où on est entre deux armées, c'est vraiment une ville qui est en ruine. Donc on est plutôt dans un contexte de crimes de guerre et de meurtre de civils. Et vraiment la coexistence de ces deux codes, donc plutôt quelque chose qui est de l'ordre du crime de guerre et du crime massif, et des bombardements massifs, et de cette légèreté des codes de réseaux sociaux, et dit beaucoup en fait de ce qui se passe à Gaza et de cette opération militaire qui est en cours depuis le 7 octobre. Et par rapport à ce que disait Samuel Fauré de deux discours parallèles, je suis pas sûre que ce soit vraiment deux discours parallèles, parce que c'est pas comme s'il y avait il y a un discours officiel de l'armée qui est destiné à l'Occident, oui. Notamment à travers les porte-paroles, notamment à travers des gens comme Olivier Ravrovitch, etc. Mais dans les faits, dans ces images qui ont circulé, on a eu par exemple, et nous on en parle dans le papier de Fatma Belhamad qu'on a publié sur Orient 21, on a par exemple des images du président israélien, Herzog, qui aussi participe à cette mise en scène, qui est pris en photo en train de signer, dédicacer des obus qui vont être lâchés sur Gaza. Donc, je veux dire, dans toute cette mise en scène, qui a d'ailleurs beaucoup servi dans la plaidoirie de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, justement en se basant sur toutes ces images qui circulent et qui prouvent en fait qu'il y a eu des crimes de guerre, etc., l'Afrique du Sud, par exemple, n'a pas fait appel ou n'a pas, cité les discours des dirigeants, les plus extrémistes, type Ben-Gvir ou Smotrich. C'est-à-dire que même chez des personnalités politiques ou de l'armée qui sont censées représenter, qui représentent en fait l'autorité officielle, on trouve justement le même discours génocidaire, en fait, à l'encontre des Palestiniens de Gaza. Donc, il y a vraiment une parfaite cohabitation, en fait, entre ces deux discours-là. Ils ne sont pas du tout parallèles. Et c'est justement une des choses qui est choquante par rapport à ça. Et puis, peut-être j'ajouterais juste une chose, c'est que le fait aussi de se prendre en selfie, comme ça, devant ce paysage de ruines, dit quelque chose, non pas de l'impunité, parce que, pour dire que l'impunité, il faut avoir déjà conscience qu'on est en train de faire quelque chose de mal, mais c'est vraiment à se demander si elles sont conscientes qu'il y a un problème, en fait, dans ce qu'elles... Donc ça dit aussi quelque chose de la psychologie, en fait, ou de l'état psychologique dans lequel les soldats sont.
Samuel Fauré, sur cette question de la conscience de ce qui est en train de se passer, aujourd'hui, quand on voit ces photos, c'est vrai qu'on se dit elles ont l'air, en tout cas, très jeunes. Est-ce qu'elles se rendent compte de ce qu'elles sont en train de faire, ou est-ce qu'en fait, c'est juste... Ces photos-là, elles ont toujours existé dans tous les conflits. C'est juste qu'elles s'adaptent, finalement. C'est les codes de l'époque s'imposent à ces pratiques.
Vous me demandez peut-être beaucoup, parce que je ne suis pas sociologue, mais des soldats qui documentent leurs actions, qu'elles soient morales, immorales, illégales ou légales, ça a toujours existé. C'est des choses que moi j'ai pu en être témoin. Mais la question, c'est vraiment comment circulent ces images. Et ce qui est frappant, c'est de voir que l'armée israélienne a généralement un discours extrêmement contrôlé, fait très attention à sa communication et laisse cohabiter, alors bon, si vous n'aimez pas le mot parallèle, mais laisse cohabiter en tout cas à côté, laisse exister ces images qui ne sont pas... laisse exister, laisse faire. Empêche pas vraiment. Il y a eu quelques sanctions, mais ça s'est résumé, je crois, à 10 jours d'arrêt pour les seules sanctions qui ont été portées à ma connaissance. Un rappel à l'ordre qui arrivait très tard, un rappel à l'ordre qui arrivait mi-février, alors que ces images ont commencé à circuler de façon massive à partir des débuts de début novembre, du courant novembre, courant décembre. Un rappel à l'ordre très tardif et enfin un rappel à l'ordre aussi de la procureure générale militaire au chef d'état-major et au commandant israélien qui est arrivé aussi de façon très tardif et au moment où il y avait des audiences devant la Cour internationale de justice sur le statut légal de l'occupation israélienne en Palestine. Donc vous voyez, tout ça est arrivé très tard, donc l'armée pourrait mieux contrôler ce genre de choses, mais ne le fait pas. Donc j'imagine peut vivre avec ce genre d'image et je pense construit un discours, un narratif d'humiliation, de nous sommes des soldats en terrain conquis et on fait ce qu'on veut. Et alors ça reste l'important, c'est que je pense que ça reste sous le seuil pour certaines images en tout cas, que ça reste sous un certain seuil, que on va pas se mettre en scène à prendre des photos avec des cadavres par exemple, bien que ce soit arrivé pour dans certains cas. Donc ce genre de l'armée laisse circuler tout ça. L'armée laisse circuler tout ça et apporte une réponse assez qui me paraît pas très ferme par rapport à ce que ça peut faire. Et ça peut servir effectivement un discours ça peut servir un discours et le pouvoir politique s'en accommode ou produit ses propres images comme dit Sarah Guerra. Sur le président Herzog qui signe un obus qui s'apprête à être envoyé sur Gaza, est-ce que c'est réellement différent qu'un jeune soldat qui se déguise en dinosaure et qui va charger un obus qui va être envoyé sur Gaza? Au fond, c'est deux générations qui envoient la même chose, qui on vous bombarde et c'est bien fait pour vous.
Puisque vous évoquez la vidéo du soldat déguisé en dinosaure, je voudrais juste qu'on la regarde, puisqu'elle montre aussi la façon dont certains soldats se comportent à Gaza, et avec quelle légèreté, surtout, ils envisagent cette guerre.
No peleg ma'omer.
Septora.
Samuel Fleury, vous évoquez cette vidéo en particulier, elle a quelque chose, on a trouvé nous, d'intéressant, c'est la façon dont elle est montée, c'est-à-dire qu'il y a de la production derrière, c'est pas une vidéo improvisée, on le sent bien, d'abord parce qu'il faut un déguisement, bon, mais ensuite on manipule des armes, des obus en l'occurrence, on filme un char en train de tirer, donc ça veut dire qu'on a anticipé le fait que le char allait tirer pour cette vidéo. Là encore une fois, on se dit, quand on voit cette vidéo, ça peut pas être un incident isolé, puisqu'en plus on entend des rires, donc a priori il y a plusieurs soldats en train d'assister à la scène ou de se filmer. Qu'est-ce que répond l'armée israélienne sur ce genre de vidéo? C'est-à-dire que, est-ce que c'est, ils répondent, bon, bah, c'est des soldats qui ont pété les plombs, entre guillemets, ou est-ce qu'ils disent, on va enquêter, puis on reviendra vers vous?
Alors, la réponse est, on a fait un rappel à l'ordre mi-février, et ce genre d'image, je pense que ce genre d'image peut être amené à être moins courant, mais en même temps, dernièrement, on a vu des images d'un jeune soldat qui provoque les Palestiniens de Gaza, qui ont circulé ces dernières semaines, donc bien après le rappel à l'ordre. Donc ces images continuent de circuler. Ce que je veux dire, c'est que tout ça aussi, il produit. Il y a eu le 7 octobre qui, je pense, a désinhibé, qui a encore plus désinhibé un certain public israélien vis-à-vis du mal qu'ils peuvent faire aux Palestiniens. Et d'autre part, cet octobre s'inscrit dans un contexte où moi, j'ai vu, ça fait 3-4 ans que je suis ici, j'ai vu les discours de haine se développer de plus en plus. J'ai vu une fois par an, est organisée à Jérusalem la marche dite des drapeaux où les éléments les plus suprémacistes et les plus radicaux de la société israélienne défilent et crient volontiers mort aux Arabes. Alors bien sûr les politiciens diront non mais on leur interdit de crier mort aux Arabes, mais de fait les jeunes le crient. Donc, ils peuvent cohabiter avec ces discours, et c'est un peu, d'une certaine manière, ce qui se passe avec l'armée israélienne. Ils disent « Oh non, on en interdit », mais de fait, ces images sont produites. Tout ça contribue à entretenir un climat de haine, qui est de plus en plus prégnant, et qui marque de plus en plus, surtout la jeunesse, et à côté, il y a très peu d'images qui sont véhiculées pour proposer un autre discours. Je vais prendre un exemple. Par exemple, l'armée israélienne a tenté de faire parvenir un peu d'aide à Gaza. Ça aurait pu être l'objet d'une mise en scène de propagande, etc., mais ça aurait pu être l'objet d'une mise en scène. Or, ces camions sont entrés la nuit. L'Israël ne voulait surtout pas montrer qu'ils apportaient de l'aide à des Gazaouis parce que c'est insupportable. Cette idée est insupportable pour une partie de la société israélienne. C'est insupportable qu'on puisse aider des Gazaouis. De toute façon, c'était le cas avant le 7 octobre et ça l'est a fortiori aujourd'hui. Donc cette forme de vous voyez ça il n'y a pas de toutes ces images produisent un discours qu'elles soient produites intentionnellement qu'elles soient laissées faire etc. En tout cas ça contribue à produire un discours multicanaux. Donc il y a le discours dans les médias israéliens, le discours de propagande, le discours étatique et puis le discours de ces jeunes soldats israéliens sur les réseaux sociaux. Qui montre que voilà, on est là pour faire la guerre et on est là pour écraser la population de Gaza dans un acte qui ressemble quand même beaucoup à un désir de vengeance, contrairement à ce que dit la propagande, contrairement à ce que dit le discours officiel de l'armée israélienne.
Sarah Gréa, sur ces images, on en a montré quelques extraits, il y en a beaucoup d'autres. Hein, dans l'enquête d'Avant 21, on cite une demande de fiançailles, notamment une demande en mariage, dans les ruines de Gaza, des soldats qui se fument en train de fumer une cigarette devant un bâtiment qui est détruit par des charges explosives. Encore une fois, on a l'impression d'une totale inconscience de la situation ou alors d'une totale désinhibition, comme disait Samuel Fauré, c'est-à-dire depuis le 7 octobre, il n'y a plus de limites finalement.
Oui, totalement. Je pense que effectivement, il y a. Je crois qu'il ne faut pas isoler en fait ce que fait l'armée israélienne et les vidéos qu'on voit de l'ensemble en fait du discours qui circule en Israël, que ce soit au niveau de la classe politique ou au niveau de la société. D'abord, en fait, faut pas oublier que l'armée israélienne, ce n'est pas juste une armée de professionnels, c'est beaucoup de réservistes. Donc en fait, c'est une partie de la société israélienne aussi que on voit sur ces vidéos. C'est des gens en fait qui ont un travail, une vie normale. Pour rappel, il y a le producteur de la série Fauda qui a été tué en fait lors de ces opérations. Donc c'est vraiment en fait des gens qui ont une vie civile en dehors des moments de guerre. Donc ça dit aussi quelque chose de la société israélienne. Et d'ailleurs sur l'aide humanitaire. Il y a eu un sondage, 80% de la société israélienne est réfractaire à l'idée d'apporter ou de laisser passer l'aide humanitaire à Gaza. Donc en fait, tout ça s'inscrit dans un climat général d'une envie de vengeance totale en fait, qui est aussi alors relayé, on l'a vu par les discours de la classe politique, qui est relayé médiatiquement parce que ces vidéos-là, elles passent sur les médias israéliens, elles sont commentées et Il y a le côté un peu drôle, fun, effectivement, ce que vous releviez tout à l'heure avec le dinosaure, la mise en scène, la musique, etc. On est vraiment dans les codes TikTok. Donc, non seulement il y a tout ce travail de production et de post-production derrière, mais l'armée israélienne, par exemple, a embarqué des influenceurs. Avec elle, vraiment, des gens qui ont vraiment des milliers de followers sur Instagram, qui se sont retrouvés en train de partager une glace et de rire avec l'armée israélienne pendant qu'ils lançaient des obus sur des maisons à Gaza. Donc il y a vraiment... Et à côté de ça, il y a effectivement aussi il y a des chansons de rap, par exemple, qui sont sorties, avec vraiment des refrains du type « les rats de Gaza, on va tous les tuer, on va tous les massacrer ». Donc c'est vraiment complètement désinhibé, effectivement. Et il y a une telle envie de vengeance, en fait, après ce qui s'est passé le 7 octobre, que quelque part, si en fait l'armée israélienne, parce qu'effectivement, la hiérarchie de l'armée aurait tout à fait la possibilité de censurer ces vidéos, parce que des exactions de ce genre, ou des soldats qui se filment en train de commettre des exactions, il y en a eu dans d'autres guerres. On se souvient, les soldats américains à Abu Ghraib, donc dans les prisons irakiennes, etc. Mais ce sont des images qui ont filtré après. Là, c'est du live stream, en fait. On voit ça en direct, ils postent ça sur leur compte, etc. Et donc, la hiérarchie laisse faire. Et elle laisse faire aussi pour assouvir un désir de vengeance qui est vraiment présent dans la société. Et encore une fois, en fait, c'est aussi présent dans les médias. Et ça va loin, hein. C'est pas juste les vidéos, là, un peu fun. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu les travailleurs gazaouis qui travaillaient donc en Cisjordanie et dans les colonies, qui ont été enlevés, séquestrés, torturés. Et on a vu des vidéos d'eux circuler, c'est-à-dire ils étaient baïonnés, en train d'être vraiment, enfin dénudés, en train et à filmer pendant des séances de torture psychologique où on leur faisait, on faisait passer le même morceau en boucle, etc. Et ces vidéos-là ont circulé, ont été diffusées sur les chaînes israéliennes. Donc c'est totalement assumé, effectivement, et c'est totalement désinhibé. Il y a eu, effectivement, comme je disais, Samuel Fauré, un certain rappel à l'ordre qui a eu lieu, effectivement, après l'ordonnance de la CIJ. Donc parce que, justement, ces vidéos-là ont été utilisées comme preuve à charge contre l'armée israélienne. Donc c'est vraiment... enfin voilà, ça dit effectivement quelque chose de l'état d'esprit général qui est dans la société et qui du coup se reflète dans l'armée.
Samuel Fauré, est-ce que... on a parlé du selfie tout à l'heure, ce fameux selfie devant les ruines, mais est-ce que ces images plus légères, mises en scène, est-ce qu'elles sont débattues dans des émissions à la télé? Est-ce que ça crée une indignation? Ou est-ce que finalement ça passe dans le flot habituel de ce qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux pendant un conflit? En Israël, je veux dire.
Je pense que ça passe largement. Je pense que ça passe largement. Il y a un peu tout, si vous voulez. La société israélienne est une société extrêmement plurielle. Donc, si il y a une partie de la société qui refuse ces images et qui les condamne, ils trouveront les condamnations qui leur permettent de dire bah, ces images ont été condamnées. Mais il y a des chaînes je pense par exemple à la chaîne 14 qui est l'équivalent de Fox News et qui utilise ces images très volontiers. Mais ce qui est aussi important de rappeler, c'est que ces images servent pour nourrir un public israélien, mais ces images sont très relayées côté palestinien. Et j'imaginais la colère et l'humiliation que peuvent ressentir les Palestiniens de Gaza en voyant quelqu'un grimé en dinosaure qui les bombarde, en voyant leurs maisons bombardées, des quartiers entiers qui sont bombardés parfois on a du mal à comprendre la raison. Il y a des lieux qui ont été démolis, qui ont été détruits. Je pense à, c'est l'une des vidéos que j'ai vues dans mes images, à une mosquée qui a été démolie, alors qu'elle ne représentait a priori aucune menace. Pourquoi a-t-elle été démolie? Je ne comprends pas très bien. Il y avait, si on veut remettre ça dans un contexte plus large, il y avait... une volonté, une revendication très forte, qui malheureusement, on a un peu oublié, mais lors des révolutions arabes, une revendication de dignité. Et là, ce qu'on voit, c'est ces images ou ces largages de nourriture qui s'apparente pour les Gazaouis à l'humiliation. Je renvoie au site d'Orient 21 qui publie le journal en ligne d'un chroniqueur qui s'appelle Ramia Boujamous, exactement, et qui explique à quel point toutes ces pratiques peuvent être humiliantes pour des gens qui sont enfermés depuis plus de 15 ans. On peut même remonter encore avant, dans un territoire qui est extrêmement dense et qui est maintenu sous un contrôle total. C'est une occupation indirecte, c'est ça le terme en droit international, mais c'est une occupation, c'était une occupation quand même.
Je voudrais qu'on voit d'autres images. Et alors, je signale en effet le journal de bord de Rami Aboujamous, qui est passionnant et qui raconte donc depuis Gaza, c'est l'article que vous citiez, Samuel Fauret, finalement la vie d'un Gazaoui sous les bombes.
Juste effectivement pour préciser, donc normalement on était parti sur publier le texte un texte trois fois par semaine avec Rami Aboujamous justement sur sa vie quotidienne à Gaza. Et un exemple justement de cette vie quotidienne, ça fait 3 jours qu'il n'arrive à rien nous envoyer parce que, en fait, il n'envoie pas de texte, il envoie des messages vocaux qu'on retranscrit. Et là, ça fait 3 jours en fait qu'on n'a que des bouts de messages de sa part parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir du réseau donc à Rafah, là où il est avec sa famille.
D'accord. Et bien, en tout cas, ouais, c'est à lire. Du coup, au rythme des publications incertaines. Je voudrais qu'on voit d'autres images qui montrent cette fois des soldats qui se servent dans les maisons détruites à Gaza.
Lionel, merci.
Lionel,
merci.
Samuel Fauret, je cite un extrait de votre enquête sur ce phénomène à un soldat que vous avez interrogé, qui dit « Toutes les maisons dans lesquelles nous passions étaient inspectées de fond en comble à la recherche d'armes ou de munitions. Certains d'entre nous ont pris des souvenirs sans valeur. Des habitations ont été brûlées sur ordre de la hiérarchie. L'un d'entre nous a tenté de s'opposer à ce genre de comportement. On lui a répondu que le 7 octobre, les terroristes du Hamas ont tué des gens et incendié des maisons. Donc, on peut le faire aussi. » Là, on est dans la logique, la loi du talion parfaite. L'expression est peut-être mal
choisie. Et ça clôt le débat. Et ça clôt complètement le débat. Ce genre de comportement, de toute façon, j'ai eu des réactions en disant, écoutez, c'est quand même pas très grave. Voilà. Mais de toute façon, je rappelle aussi quelles sanctions peuvent arriver dans un pays qui a gracié ou qui a réduit la peine d'un soldat qui avait tué, qui avait exécuté un Palestinien qui avait été fait prisonnier et qui ne représentait plus aucune menace. Ce soldat, c'était Elor Azaria. Et il a exécuté un Palestinien donc à terre qui venait de commettre une attaque sur d'autres soldats qui avaient été blessés. Ce Palestinien a été maîtrisé, et ne représentait plus aucune menace. Il était blessé et il a été achevé d'une balle dans la tête. Non seulement sa peine a été réduite, Il a quand même été condamné, sa peine a été réduite, mais en plus, cet homme est devenu un héros pour toute une partie de la société israélienne.
Il a été suspendu 4 mois, c'est ça ?
Si mes soins sont bons, oui, je crois qu'il avait été condamné à 18 mois, sa peine a été réduite à 4 mois. Et il est devenu un héros pour toute une partie de la société israélienne. Il a participé à la campagne électorale d'un membre du Likoud, qui est censé être un parti de droite, mais pas suprémaciste, etc. Donc, vous voyez l'abîme dans lequel on s'enfonce, en fait. Tous ces discours, tous ces pillages, tous ces vols, je pense, contribuent à alimenter une colère qui va être nourrie encore pour des générations, à moins qu'on arrive à des solutions plus radicales. Et personne ne veut ça. Mais voilà, c'est ce qu'on constate sur place. Cette guerre à Gaza, on ne sait pas encore si ça va être un autre épisode dans une confrontation ou si elle va amener à une nouvelle phase du conflit israélo-palestinien. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais soit on s'inscrit encore dans une guerre éternelle, soit les deux acteurs peuvent essayer de s'en sortir par une paix, mais qui risque d'être construite sur la haine.
Sarah, là, sur ces images, il y en a une aussi qui a, on ne l'a pas insérée dans le montage, mais qui a beaucoup circulé. C'est ces soldats qui enfilent des vêtements de femmes gazaouis. Et pour beaucoup, ça, c'est un symbole de plus d'une guerre qui s'en prend aussi aux femmes gazaouis spécialement.
J'avais réagi à la loi du talion, parce qu'en fait, juste le principe de la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et là, on a 1200 morts côté israélien le 7 octobre, 30 000 côté gazaoui. Donc on a, même en réfléchissant avec cette logique-là, alors qu'on est censé réfléchir en termes de droit international, etc., même avec la logique de la loi du talion, ça ne marche pas, en fait. Sur, les images... j'aimerais juste, par rapport à la circulation médiatique, en fait, de ces images-là, il y a une infime minorité, en fait, de la société israélienne qui effectivement s'indigne, en fait, et qui le paye très cher, hein, notamment les journalistes du site Plus 972 israélien, qui vraiment le payent en menace, etc. Donc quand ils s'indignent justement de toutes ces images, il y a eu en fait un très bon article de Nitzan Perelman sur le site Yarni qui justement parle de la circulation de toutes ces images-là et encore une fois en toute impunité sur les médias israéliens. Sur en fait les images des soldats, alors c'est des vêtements, c'est des sous-vêtements en fait de femmes palestiniennes à Gaza qui... En fait, c'est un tout, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette volonté de réappropriation totale de Gaza. Donc, quand Samuel Fauré dit il y a des bâtiments qui sont détruits, on ne comprend pas trop la logique de les détruire. Il y a même, au-delà des bombardements, il y a effectivement des... On a mis de la TNT, etc., pour volontairement détruire des bâtiments d'habitation, en fait. En plus des universités, etc. Donc il y a vraiment une volonté de tout raser à Gaza. Et encore une fois, c'est un tout parce que les dirigeants israéliens l'ont dit, les dirigeants politiques l'ont dit, ils ont parlé d'une nouvelle Nakba. Donc on est vraiment dans une volonté explicite de nettoyage ethnique et aussi de se réapproprier, donc de recoloniser. Parce que là, effectivement, Gaza est officiellement sous occupation, même si l'armée n'y était pas jusque-là physiquement dans le territoire. Mais là, il y a effectivement une volonté de recoloniser le territoire. Et on le voit ça aussi dans les vidéos, parce qu'on voit des soldats, par exemple, qui vont se baigner dans la mer de Gaza, et ils le disent, c'est notre terre, c'est notre plage, c'est notre mer. Donc il y a vraiment une volonté de se réapproprier en fait cet espace. Sur des images que vous avez montrées, où on les voit dans les maisons, c'est aussi l'idée d'un butin de guerre en fait. On vient, on rase tout et on s'approprie les affaires, les propriétés des victimes. Et effectivement, donc pour en revenir à ces images où on les voit s'amuser, alors c'est non seulement sortir tous les sous-vêtements, voilà, se filmer avec, etc. Il y a eu cette image aussi qui a beaucoup choqué, à juste titre, d'un soldat franco-israélien. Ça, c'est tout un sujet aussi des Français engagés dans l'armée israélienne, qui s'est photographié avec derrière lui un mur avec plein de... En fait, comme des trophées de guerre, en fait, plein de sous-vêtements de femmes israéliennes. Et il a posté ça en photo de profil sur une appli de rencontre. Et ça dit quelque chose de vraiment d'une continuité coloniale, en fait. On est vraiment là dans les codes vraiment coloniaux de prendre comme butin de guerre tout ce qui relève, en fait, des femmes de l'ennemi. Et donc, s'approprier ça, fantasmer aussi sur, effectivement, les femmes colonisées. Donc, on est... tout simplement, en fait, dans la logique coloniale de conquête, etc. Et encore une fois, ça correspond... Il y a le discours politique, politique et médiatique, et il y a sa traduction par les faits et par les armes à Gaza.
Il y a aussi une dimension... évidemment religieuse dans ce conflit, ça c'est une évidence, j'enfonce une porte ouverte, mais dans cette opération, on a vu des soldats poser avec les symboles du judaïsme, que ce soit le chandelier, que ce soit la Torah, et dans votre article, vous racontez ce que raconte justement le magazine 972, le magazine Plus 972, qui dit que certains soldats, Samuel Forêt, ont demandé conseil à leurs rabbins ou à leurs proches religieux pour savoir s'ils avaient le droit de piller, pour savoir si c'était conforme à la religion.
Bah oui, parce qu'il faut assez de bons religieux, n'est-ce pas? Donc on va demander conseil aux rabbins. Il y a le retour des rabbins était plutôt non, ne prenez rien, ou ce n'est pas dans ce cadre qu'il faut voler les choses, ou sinon cela appartient au commandant. Mais il y a un rabbin qui a dit bon, de toute façon prenez tout. Ce rabbin est un rabbin. Je crois Eliyahu, si mes souvenirs sont bons, ultra radical qui vit à Safed. Donc on s'attendait à ce genre de discours. Et encore une fois, vous voyez, on peut trouver tout en fonction de ce dont on a besoin. Si on veut rester un bon religieux et ne pas voler, on peut avoir des discours de rabbins qui invitent à ne pas piller, à ne pas voler. On peut aussi avoir des rabbins qui disent l'inverse. Donc, encore une fois, c'est tout cohabite. Ce qui est effectivement inquiétant, c'est que ce discours, ces images qui sont produites, certaines images appellent à la recolonisation de Gaza. Pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qui va se passer quand les combats s'arrêteront, parce que les combats peut-être s'arrêteront à un moment donné, en tout cas ne seront plus aussi violents. Il y aura peut-être plus 100 ou 200 morts par jour, qui est quand même le rythme des 4 ou 5 premiers mois de la guerre. C'est effectivement cette invitation à recoloniser Gaza est un discours extrêmement présent dans les esprits, qui est encouragé par toute une partie de la classe politique qui appelle à une épuration ethnique pour les plus modérés, ceux qui voudront émigrer volontairement seront les bienvenus, et ou sinon on va les pousser dehors. Donc il y a, je ne pense pas que ce soit le but de Netanyahou, je ne pense pas que, en tout cas, le ministre de la Défense, lui, a dit qu'il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de nouvelles colonies qui seront construites à Gaza après la guerre. Mais je rappelle qu'en 1967, il n'était pas prévu d'avoir des colonies dans le nord de la Cisjordanie, il n'était pas prévu d'avoir des colonies autour des ponts. Les colons se sont installés, ils ont résisté, ils ont tenu, ils se sont fait dégager plusieurs fois par l'armée, ils sont revenus encore, et puis finalement, ils se sont installés. Au début, c'était dans un... Au début, c'était dans une base de l'armée où ils étaient 8, et puis après, ils étaient beaucoup plus nombreux. Et aujourd'hui, ils sont 500 000.
Je voudrais qu'on voit, à propos de, justement de ce sujet de la recolonisation de Gaza, des images qui ont elles aussi fait le tour du monde, où on voit Itamar Ben-Gvir, notamment ministre de la Sécurité intérieure d'Israël, qui danse à une convention justement autour de ce projet de recoloniser Gaza. Alors, je précise que Itamar Ben-Gvir, c'était celui qui avait une cravate rayée, voilà, qu'on voit juste ici, bleu marine et bleu clair. Libé a publié un papier hier qui explique que des colons israéliens ont installé de premiers avant-postes dans le nord de Gaza. On a l'impression, au vu de tout ce qu'on s'est dit sur les images précédentes, sur celle-ci aussi, que le 7 octobre est très loin, même parfois dans les mémoires de certains Israéliens. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour certains, le 7 octobre est finalement un prétexte parfait pour dérouler une politique de reconquête.
Alors, je ne sais pas si c'est un prétexte ou si... je ne dirais pas que quand même c'est loin, parce que Samuel Fauré pourra le confirmer puisqu'il est sur place, mais il y a quand même un important sentiment de traumatisme dans la société israélienne. Et malgré toute la destruction et malgré le risque de génocide, pour citer la CIJ à Gaza, et en tout cas le massacre, je veux dire, on est à plus de 30 000 morts aujourd'hui, il n'y a pas de sentiment de victoire chez la société israélienne. Donc il y a quand même, du point de vue de la sécurité, il faut aussi rappeler qu'il y a tous les Israéliens qui étaient donc dans le nord d'Israël, donc pas loin de la frontière libanaise, qui ont été déplacés de là, qui ont été logés ailleurs et qui ne sont toujours pas revenus. Donc, sur la question quand même de la sécurité des Israéliens, etc., il y a quand même un avant et un après 7 octobre. Que cela serve de moteur pour intensifier et accélérer une volonté qui a toujours été présente de colonisation, ça oui, certainement. On l'a vu, donc, en Cisjordanie, parce que tous les regards sont braqués sur Gaza, mais il faut rappeler aussi que depuis le 7 octobre, l'effort de colonisation s'est extrêmement intensifié en Cisjordanie. Il y a eu plusieurs villages palestiniens qui ont été vidés de leurs habitants, des paysans qui ont été déplacés, plusieurs morts. L'année 2023, c'est l'année la plus, je crois que c'est l'année la plus meurtrière depuis la seconde intifada en Cisjordanie. Et le même Itamar Ben-Gvir qu'on vient de voir sur ces images-là a fait distribuer en fait des armes aux colons en Cisjordanie qui aujourd'hui en fait sont en train d'installer ce qu'on appelle les avant-postes. Ils travaillent main, c'est-à-dire que jusque-là, en fait, les colons étaient protégés par l'armée. Aujourd'hui, ils travaillent main dans la main avec l'armée. On a publié un reportage là-dessus dans Orient 21 où les Palestiniens disent, en fait, aujourd'hui, on n'arrive plus à faire la différence entre les colons et l'armée parce qu'ils sont habillés pareil, ils ont les mêmes voitures, ils ont quasiment les mêmes armes. Donc c'est vraiment un effort commun de grignoter chaque jour davantage de territoire palestinien. Donc c'est la même logique qui va être à l'œuvre à Gaza. En tout cas, c'est la volonté de Ben-Gvir et de Smotrich. Et là-dessus, en fait, justement, ça rejoint ce que vous avez relevé concernant la question religieuse, parce que ça n'a pas toujours été... la question religieuse n'a pas toujours été au cœur du conflit. Je veux dire, historiquement, le sunnisme est un courant laïque, qui n'est pas du tout un courant nationaliste, oui, mais pas du tout religieux. Et c'est vraiment à la fin, il y a un début donc en 67 avec l'occupation de Jérusalem, mais encore plus avec le retour du Likoud à la fin des années 70, où justement la dimension religieuse en fait devient de plus en plus présente, et aussi avec justement la montée d'une nouvelle classe politique qui est composée justement de extrémistes religieux et de colons, dont justement Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, donc autres ministres suprémacistes du gouvernement de Netanyahou, sont vraiment représentatifs. Il faut quand même rappeler que Bezalel Smotrich, quand il était de passage par Paris l'année dernière, il a donné une conférence de presse où il parlait du grand Israël avec une carte qui englobait en fait l'ensemble du territoire, enfin des territoires occupés palestiniens, et qui même débordait sur la Jordanie. Donc c'est ça le rêve en fait d'une, au moins d'une partie du gouvernement de Netanyahou. Donc effectivement toutes ces questions là se rejoignent, oui. Et juste en fait par rapport au donc à la question des peut-être le jour d'après, il y a effectivement toujours des combats en cours parce que contrairement à tous les objectifs qui ont été annoncés, l'armée israélienne n'arrive pas du tout à venir à bout du Hamas, et les combattants du Hamas sont encore présents, que ce soit dans le nord de Gaza ou à Khan Younes, donc on est plutôt dans le sud, mais pas dans l'extrême sud de Gaza. Donc effectivement, les combats continuent tous les jours, mais pour préciser, quand on parle de 100 à 200 morts par jour à Gaza, ce n'est pas le résultat de combat, ça c'est le résultat de bombardement. Donc, il faut bien avoir en tête que le plus gros de, enfin je veux dire les victimes palestiniennes, c'est essentiellement des civils, pas des combattants du Hamas, et ils ne sont pas morts durant des combats, ils ont été tués lors de bombardements sur ce qu'on disait tout à l'heure, les immeubles d'habitation, les hôpitaux, les universités, absolument tout.
Samuel Fauré, sur cette notion de victoire, Sarah Guerra disait, dans la société israélienne, il n'y a pas de sentiment de victoire cinq mois après le 7 octobre, et malgré l'ampleur des destructions à Gaza, et malgré que finalement Gaza a été mise à terre, et ses habitants, pour beaucoup, tués. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que cette société israélienne, elle attend quoi finalement, en fait, de la revanche et de cette vengeance? Jusqu'où il faut aller pour qu'on considère que le 7 octobre sera... sinon, pardonner, ça, parce qu'on se doute bien que ça n'arrivera peut-être pas, mais en tout cas, venger ou égaliser.
C'est un piège. Je pense que le Hamas a conçu l'attaque du 7 octobre pour entraîner Israël dans une guerre totale. Ça s'apparente à un piège. Je rappelle aussi qu'il y a eu des prises d'otages. Et qu'il y a aujourd'hui à peu près 130 otages encore aux mains du Hamas. Tant que ces otages ne seront pas revenus, je ne pense pas qu'on pourra parler de victoire. Donc, ça va être très difficile de ramener ces otages, en tout cas extrêmement difficile de les ramener par la force.
C'est toujours le premier objectif affiché, ça, par l'armée israélienne ?
Le premier objectif affiché, ça a été toute une question. Il y a eu tout un débat sur les questions des objectifs de l'armée israélienne. Au début, Benjamin Netanyahou a circulé dans tous les médias pour dire, et il le répète encore aujourd'hui, on va détruire le Hamas. On va détruire le Hamas, on va détruire le Hamas. Puis après, on dit, attention, il y a des otages. Ah oui, on va détruire le Hamas et ramener les otages. Et après, quand on lui demandait, mais ça veut dire quoi détruire le Hamas? Ça veut dire tuer tous les gens qui soutiennent le Hamas, parce que ça peut se compter en centaines de milliers. Non, mais on va détruire les capacités militaires du Hamas pour qu'ils ne représentent plus une menace. On en est revenu à l'armée israélienne affirme qu'il s'agit maintenant donc de détruire les capacités du Hamas pour qu'ils ne représentent plus une menace. Et notamment, c'est pour ça que la question d'une opération à Rafah, qui est le dernier territoire, le sud de la bande de Gaza, qui est le dernier territoire qui échappe encore au contrôle de l'armée israélienne, l'idée est d'envahir ce territoire, ça va être un désastre humanitaire, ça peut mener à une épuration ethnique. Mais les Israéliens pourront dire on est allé partout dans Gaza, on est allé du nord au sud, et à partir de là, peut-être pourront-ils clamer une victoire totale, mais tant qu'on n'aura pas le retour des otages, et tant que je pense que Yahya Sinwar ou Mohamed Deif, qui ont été parmi les concepteurs de cette attaque du 7 octobre, n'auront pas été soit arrêtés, soit éliminés, il y aura un sentiment bien sûr d'inachevé, mais de toute façon on pourra toujours aller à la poursuite d'une guerre totale, mais aller à la poursuite d'une guerre totale, c'est aller à la poursuite de la destruction d'une société ou l'autre. Donc je ne pense pas qu'il faut souhaiter de guerre totale ou de victoire totale, mais ce discours est très présent dans la société israélienne. Après, un narratif alternatif peut se construire dans les jours, dans les semaines à venir. Déjà, s'il y a un arrêt des combats, s'il y a un cessez-le-feu, s'il y a une retour du parti, d'une partie des otages, au moins les civils, il peut se construire un narratif alternatif et on peut revenir à quelque chose de plus raisonnable. Les Américains disent qu'il faut, voilà, il faut descendre de l'arbre branche par branche. Donc l'idée est l'idée est d'une part de calmer la situation et puis ensuite peu à peu de désescalader et de laisser place à d'autres discours qui permettent de présenter une forme de victoire, une forme d'après, en tout cas une forme de on peut passer à autre chose. Puis après le 7 octobre restera quelque chose qui marquera la société israélienne pour toujours, je pense, parce que c'était la plus grande attaque de cette ampleur sur un territoire israélien par un groupe palestinien.
Je reviens juste une seconde, Samuel Forêt, sur cette hypothétique attaque de Rafah. Pour bien préciser aux gens, c'est là que se sont réfugiés tous les Palestiniens qui vivaient au nord de la bande de Gaza, depuis, pas tous, mais en tout cas une grande partie, ceux qui ont réussi à fuir. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, Israël se prépare même à assumer un massacre, puisque c'est ce que ça va être. Si l'armée israélienne attaque Rafah, on risque des pertes civiles colossales.
L'armée israélienne a préparé un plan d'évacuation des civils de Rafah. Elle avait prévenu les civils qu'il fallait évacuer le nord de la bande de Gaza, ils sont allés vers le sud, il y a commis des opérations dans le sud, il y a commis des bombardements dans le sud. Ça ne va pas arrêter l'armée israélienne et de nombreux Gazaouis commencent déjà, anticipant une invasion de Rafah, commence déjà à remonter soit vers le nord, pas complètement parce que l'armée israélienne empêche le retour des habitants vers le nord, mais à sortir progressivement de Rafah pour anticiper une éventuelle attaque. On est tous suspendus donc à ces incertitudes, mais il n'y a aussi aucune coordination avec la communauté internationale, avec les organisations humanitaires. Pour avoir couvert la bataille de Mossoul, avant chaque opération de l'armée irakienne dans tel ou tel quartier, la population avait des corridors de sortie sur lesquels des filtres étaient installés. Les gens étaient, on lisait, donc ils sortaient avec leur carte d'identité, etc. Ensuite, ils allaient dans des camps de déplacés qui étaient déjà préparés. C'était très loin d'être parfait. C'était très loin, voilà, mais ça a quand même permis de gérer une situation humanitaire, de gérer l'évacuation continuelle, ou le mouvement continuel d'une ville qui contenait à l'époque, je pense qu'on était à un million d'habitants. Donc c'est possible de le faire, mais pour ça il faut une coordination humanitaire qui est une coordination avec les organisations humanitaires qui est très suivie. Or Israël refuse de se coordonner avec l'UNRWA, bien sûr, qu'ils sont en train de criminaliser. Ou avec d'autres organisations, ils veulent agir que par eux-mêmes, ils ne font confiance, ils n'ont confiance qu'en eux, et ça mène à des désastres comme cette distribution d'aide, de nourriture qui s'est faite le 29 février, qui a provoqué la mort de plus de 100 personnes.
Sur ce convoi d'aide qui a tourné au drame, je voudrais qu'on voit les images qui ont été diffusées par Israël notamment. Israël a diffusé une vue aérienne de ce convoi pour rappeler la situation. Donc des vivres étaient livrés dans Gaza, plus d'une centaine de morts, je crois qu'on est autour de 130 morts pendant la distribution de ces vivres. De nombreux Palestiniens accusent l'armée d'Israël d'avoir tiré sur la foule pendant la distribution. Israël dit non, il y a eu un mouvement de foule, on a tiré en l'air pour disperser les gens parce que ça tournait à la bousculade et donc les victimes ont été piétinées. Sur cette question, on a trouvé ces images très symboliques, ces images qui ont été diffusées par Israël, pour ce qu'elles disent de leur rapport aux Gazaouis, c'est-à-dire on les voit de haut, on les voit sur des images nocturnes, donc en noir et blanc, et finalement des points noirs qui se déplacent, mais qui n'ont pas de réalité, quoi, c'est-à-dire dans ces images.
En fait, il y a Plusieurs choses. D'abord, sur la coordination humanitaire, il faut quand même rappeler que c'est Israël empêche l'aide humanitaire de rentrer à Gaza, que le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé, donc via sa branche palestinienne, le Croissant-Rouge palestinien, ont annoncé, en fait, pardon, il y a quelques jours, que c'était impossible pour eux de continuer à assurer la sécurité de leur personnel sur le terrain, qui à plusieurs reprises, en fait, enfin, il y a un personnel, le personnel du Croissant-Rouge a été tué. Et justement, on parlait tout à l'heure du journal de bord de Gaza. Justement, notre confrère à Rafah rappelait, en fait, racontait justement l'histoire d'un bombardement où, dans une zone où il y avait des médecins sans frontières qui étaient présents, qui avaient partagé leurs coordonnées avec l'armée israélienne pour qu'ils ne soient pas visés, et ils ont quand même été visés. Donc en fait, le discours, bien sûr que l'armée israélienne, je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'ils disent que voilà, c'était un accident, un mouvement de foule, etc. Mais la volonté de viser des civils israéliens, je veux dire, on en est à 30 000 morts. Ça serait si l'armée israélienne ne voulait pas tuer des civils.
Oui, mais peut-être qu'en termes de communication, ce n'est pas la même chose. De pouvoir dire « des bombardements tuent des civils », et c'est malheureux parce qu'on bombarde, je me mets à la place de l'armée israélienne, c'est malheureux parce qu'on bombarde des quartiers habités, forcément il y a des civils qui meurent. Là, c'est une foule, a priori pacifique, qui vient récupérer de la nourriture. C'est pas la même chose d'assumer de tirer sur des civils.
Oui, non, mais complètement, ça rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une communication israélienne pour l'extérieur, il y a une communication israélienne pour l'intérieur. Il y a les médias israéliens qui, en interne, assument en fait les crimes et qui, en fait, pour l'image internationale d'Israël, vont plaider à chaque fois, c'est comme pour les journalistes, en fait. Plaider l'accident où on va d'abord accuser les Palestiniens, etc., de ces crimes-là. Donc effectivement, ça fait partie de la communication. Mais pour revenir au sujet initial des vidéos de soldats, parmi les vidéos, on a vu des soldats mettre le feu à des camions qui apportaient de l'aide humanitaire à Gaza. Donc ça se saurait si, en fait, Israël n'avait aucun problème, en fait, avec la distribution d'aide humanitaire. Sur la question aussi l'évacuation des civils, là aussi je pense qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que il y a eu des d'abord, en fait, on sait qu'à chaque fois que l'armée israélienne a dit aux Palestiniens déplacez-vous à tel endroit, c'est sécurisé, l'endroit en question a été bombardé. Ça a été le cas quand ils leur ont dit de se déplacer de la ville de Gaza à Khan Younes, et Khan Younes a été bombardé. Donc ça, encore une fois, c'est juste une manière de les pousser à partir. Et non seulement c'est dans le point de chute, ils sont bombardés, mais même en chemin. C'est-à-dire que quand justement l'évacuation, avec beaucoup de guillemets, avait commencé, il y a eu des bombardements sur le chemin. Il y avait des gens qui marchaient, en fait, de la ville de Gaza à Khan Younes et qui ont été bombardés sur le chemin. Donc il n'y a aucune volonté de sécuriser ou d'épargner les civils. C'est juste une manière de préparer à chaque fois l'évacuation, de faire le vide, de préparer l'invasion terrestre. Et juste, je reviens aussi à ce qui a été dit par rapport, voilà, Hamas d'un côté, l'armée israélienne, et de dire, en fait, le Hamas a tendu un piège à Israël. Personnellement, je suis très prudente par rapport à l'usage de ce genre de termes. D'abord parce que ça renvoie, c'est comme l'expression « guerre Israël-Hamas ». Ça renvoie quand même à… C'est une manière de renvoyer dos à dos deux armées, comme si on parlait de deux États, comme si on parlait de deux armées. On parle quand même d'un côté de l'armée la plus puissante du Proche-Orient, qui est soutenue par l'armée la plus puissante au monde,
les États-Unis,
pour les citer, merci, et de l'autre côté, le Hamas, qui sont, voilà, un groupe dont on peut contester les méthodes, l'idéologie, etc. Ça reste un groupe national dans un territoire qui est officiellement occupé depuis 1967. Le Hamas a expliqué ses motivations. Dire, en fait, qu'ils ont tendu un piège, et encore une fois, c'est les mettre presque à une position égalitaire, mais aussi c'est comme si le Hamas s'attendait à ce qui s'est passé le 7 octobre, sauf que non, on sait qu'il ne s'y attendait pas, parce que déjà, il ne s'attendait pas à ce que la défense israélienne tombe aussi simplement, aussi facilement, en fait, et que la clôture, en fait, qui sépare Gaza d'Israël tombe aussi facilement. Et donc, le déroulé ne s'est pas... Enfin, on sait aujourd'hui que ce qui s'est passé le 7 octobre ne correspondait pas totalement, en fait, au plan du Hamas.
Quelle que soit l'ampleur de la réussite, avec des guillemets, de l'attaque du 7 octobre, le Hamas savait bien que ça déclencherait une réaction. Peut-être pas celle-là exactement, mais ça déclencherait une réaction d'ampleur.
Mais je veux dire, tendre un piège, ça implique quand même qu'on puisse être, en fait, dans une, plus ou moins dans une position de force. Alors, on peut aussi se poser la question quelles étaient les options, en fait, qu'ils avaient. Et puis surtout, en fait, remettre ça dans le contexte, en fait, dans lequel cette attaque a eu lieu. Il y a le contexte d'occupation, il y a ce qui se passe en Cisjordanie, il y a donc Gaza qui est complètement sous blocus. Et je pense que c'est vraiment important de rappeler tout ce contexte-là, et qu'il ne s'agit pas juste, en fait, de deux États voisins ou deux armées de deux entités voisines qui sont en train de se faire la guerre. C'est bien un État occupant et un territoire occupé.
Samuel Fauret, pour tenter de conclure cette émission, comment Israël aujourd'hui s'adresse aux journalistes? C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur ces images, est-ce qu'ils essayent encore de convaincre de la légitimité de ce qui se passe à Gaza? Ou est-ce que finalement ils se disent, mais en fait, on fait ce qu'on veut, et certes, il y a des écarts, il y a des dérapages, mais on n'a pas à convaincre le monde que ce qu'on fait est juste?
Bien sûr, ils essayent de convaincre de la justesse de leur cause tout le temps, et c'est et rien que, par exemple, sur le convoi d'aide humanitaire qui a été conduit le 29 février et où les fusillades, les bousculades ont provoqué la mort de plus de 100 personnes. Immédiatement, l'armée israélienne a voulu communiquer avec les journalistes qui sont présents sur place et a proposé sa version des faits. Voilà, ils sont absolument convaincus de mener une guerre juste. Ce qui est... Il y a la place en ce moment. Le contre-discours en Israël en ce moment se focalise sur les otages. Je pense qu'il n'est pas possible de dire qu'on est qu'on veut en cesser le feu ou qu'on veut l'arrêt des combats, même si on le souhaite. Je pense que de nombreux Israéliens se concentrent sur arrêtons les combats pour libérer les otages. Donc il y a un fort mouvement qui se mobilise et qui est largement dirigé d'ailleurs contre Netanyahou. Toute la mobilisation qu'il y avait contre Netanyahou et contre la réforme, judiciaire supportée par, soutenue par le gouvernement avant la guerre, se retrouve plus ou moins avec le public qui demande la libération des otages. Donc on a une c'est là que se joue l'opposition. Et on verra, il y a des négociations qui sont en train de se tenir en ce moment, et on verra si on arrivera à la fin de... on peut aussi revenir sur, enfin, discuter de est-ce que c'est une guerre, est-ce que c'est pas une guerre, etc. C'est le cadre légal tel qu'il est reconnu par la communauté internationale, c'est le cadre d'une guerre coloniale. Voilà, ça permet de créer aussi énormément de mécanismes de protection pour les populations occupées, etc. Voilà, mais donc encore une fois, on peut discuter, mais c'est en tout cas le cadre dans lequel je m'inscris pour mon travail. Et donc, on verra le résultat de ces négociations. Si ces négociations peuvent au moins aboutir à une forme de pause. Et puis ensuite, on verra qu'est-ce qu'il en est à partir de là. Benjamin Netanyahou est à la tête d'une coalition qui est minoritaire dans les sondages depuis quasiment son entrée en fonction. Le moindre événement peut amener à la chute de la coalition. Est-ce que ça amènera à une solution plus pacifique pour Gaza, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça peut peut-être amener à un cessez-le-feu à partir duquel on peut commencer à envisager un après Gaza. en après-guerre à Gaza.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus discuter aujourd'hui sur le plateau d'Arrêt sur Image. Je rappelle Samuel Fauré à lire quasi quotidiennement sur le site du Monde et Orient 21, ça c'est tous les jours, sur le site d'Orient 21, donc magazine qui suit de très près le conflit actuel et l'opération israélienne à Gaza. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite sur le plateau d'Arrêt sur Image.